France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Merci d'être à l'écoute chaque samedi de cet été. Nous essayons ici de réfléchir aux grands enjeux économiques, ceux qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée, et encore plus, nous essayons de réfléchir à ceux qui sont devant nous avec des invités. Et la bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire, plus de 35 minutes. Ce soir, je ne reçois pas un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, mais je vous propose un échange d'économistes. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas le faire. Mes deux invités sont Anne-Laure Delatte et Denis Ferrand, économistes tous les deux, et aux opinions sans doute divergentes, en tout cas, nous allons le vérifier tout de suite.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Bonsoir à vous, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Denis Ferrand.
Bonsoir.
Bonsoir Anne-Laure Delatte. Denis Ferrand, vous êtes un économiste libéral, proche des milieux d'entreprise. Vous dirigez l'Institut Rex et Code et vous êtes très présent aussi, je le signale, sur Twitter. Je dis les choses comme il faut ou le fait de dire que vous êtes proche des milieux d'entreprise ne vous convient pas?
Non, ça ne me dérange pas, mais c'est plutôt qu'on analyse l'économie avec un prisme qui est celui d'apprécier les conséquences de mesures de politique économique, notamment sur le développement des entreprises. C'est là la manière dont on peut prendre le sujet entreprise.
Et Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS, rattachée à Paris Dauphine PSL, autrice, auteure de « L'État droit dans le mur »,« Rebâtir l'action publique », c'était chez Fayard au mois d'avril. Pour vous, dites-moi si je me trompe, l'État devrait être plus présent dans l'économie parce qu'aujourd'hui, selon vous, il est un peu au service du marché.
Alors,
c'est à peu près ça.
Oui. En fait, l'État est très présent dans l'économie déjà, donc je ne pense pas qu'il faille qu'il le soit plus. En revanche, qu'il se mette un peu plus au service des citoyens et moins au service des entreprises.
Est-ce qu'on peut résumer, ou c'est une erreur totale, un économiste de droite, une économiste de gauche, ou ça n'a aucun sens?
Je pense que c'est un peu plus complexe que cela. C'est effectivement, on se préoccupe de sujets d'efficacité économique et d'objectifs de la politique publique, et je ne pense pas que ça allait avoir avec une coloration politique.
Alors moi, je dis souvent à mes étudiants que c'est les questions que vous posez qui peuvent éventuellement donner une couleur, orienter une couleur politique, mais la façon dont vous y répondez est censée être objectif et à peu près scientifique.
Bon, je vais faire très attention aux questions que je pose, du coup. Alors, nous sommes au cœur de l'été. C'est le moment, évidemment, de faire le bilan de l'année écoulée depuis septembre dernier. Quel est, chacun de vous deux, l'événement économique qui vous semble le plus important? Avec, évidemment, vos deux approches. Alors, on a eu de l'inflation, on a une guerre en Ukraine, on a des tensions sur la mondialisation, sur le rôle de la Chine qui est questionné, il y a des poussées de protectionnisme. Au fond, il s'est passé énormément de choses depuis 12 mois. Quelles traces laisseront ces 12 mois dans l'histoire économique et plus globale?
Moi, je regarderais peut-être plus que les 12 mois, les 36 mois. Les 36 mois, ceux qui nous positionnent au début de la pandémie, c'est-à-dire vraiment cette période où on a perturbé fondamentalement l'économie, en l'arrêtant, en mettant en place tout un ensemble de dispositifs tout à fait originaux et qui ont induit des comportements particuliers. Enfin, quand on voit combien on a eu un plongeon de l'activité en 2020 et combien c'est le moment même où il n'y a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises, c'est quelque chose qui est totalement sort de l'épure économique telle qu'on peut l'apprécier. Et donc là, on est en train de remettre l'économie dans un fonctionnement, de la rapprocher d'un fonctionnement plus classique, plus normal, où on lui demande de fonctionner comme elle fonctionnait auparavant. Eh bien, ça prend du temps, cela induit des déséquilibres. Quand vous parlez de l'inflation, c'est un des déséquilibres qui est une des conséquences de la perturbation que l'on a introduite. Et actuellement, on voit remonter le nombre de défaillances d'entreprises, mais qui, au total, ressemble beaucoup à un retour à la normale. Donc, on est en train de sortir de cette période. Non, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que on était très perturbé. On a fondamentalement perturbé l'exercice de l'économie, et là, on lui retrouve un exercice normal sous des tensions géopolitiques très importantes. Et ce sera aussi le point peut-être sur les 12 derniers mois, pour le coup, pour répondre à votre question. Ces 12 derniers mois, j'insisterai peut-être plus sur les tensions géopolitiques.
Anne-Laure Delatte.
Alors moi, ce que je retiens de 2023 et ce qui m'a pris du temps en tant qu'économiste et citoyenne, c'est la longue séquence sur la réforme des retraites et la mobilisation politique, citoyenne qui a eu autour de cette réforme. Pour moi, ça révèle plusieurs choses. D'abord, on avait un diagnostic économique assez homogène sur besoin ou pas d'allonger les années.
Homogène, vraiment?
Moi, quand je lis le corps et les études
le
universitaires...
Conseil d'orientation des retraites.
Le Conseil d'orientation des retraites, les études universitaires, notamment Michaël Zemmour, mais pas que, il me semble qu'il y avait... un diagnostic assez évident sur le fait qu'on avait plusieurs options, qu'on avait un problème de financement mais qui n'était pas si important que ça. D'ailleurs, on est revenu avec des chiffres un peu mis à jour récemment, et qu'on avait plusieurs options et que finalement, il n'y en a qu'une qui a été présentée aux citoyens. Le deuxième élément qui m'a intéressé, c'est que on a eu une unité syndicale vraiment inédite,
oui.
C'est-à-dire que finalement le diagnostic était si homogène et si facile à comprendre que vous avez eu des syndicats qui ne parlaient pas depuis longtemps, qui se sont parlé et qui se sont mobilisés ensemble. Alors pourtant la réforme est passée, donc ça révèle d'une part le modèle économique du gouvernement, la flexibilité du travail, coûte que coûte, quitte à abîmer le contrat social français. Parce qu'il y avait vraiment un profond rejet d'une grande partie des citoyens sur cette réforme. Ça pose un enjeu démocratique, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de citoyens et citoyennes qui ressortent de cette mobilisation en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on y peut ?
Donc vous retenez davantage une mobilisation sociale qu'un événement économique en soi qui serait exogène.
Pour moi, c'est un événement économique très important parce qu'on touche au contrat social et aux conditions du marché du travail en France. Et puis, ça a mis en évidence de nouveaux acteurs économiques.
Alors, c'est amusant parce que vous dites que le gouvernement, à vos yeux, a voulu mettre plus de flexibilité à la fois sur le marché du travail et sur la réforme des retraites en remettant en cause un acquis social, alors que j'allais vous poser une question à tous les deux qui était, au fond, quand on voit ce qui s'est passé, l'intervention de l'État pendant le Covid, l'intervention de l'État pendant la crise de l'énergie ukrainienne avec des boucliers partout, j'avais le sentiment que c'est un peu la fin du libéralisme. Est-ce qu'on est à la fin du libéralisme ? Mais vous dites l'inverse, vous. Est-ce qu'on est dans une période qui marque la fin du libéralisme ? Et je ne mentionne même pas le traitement de la question climatique qui fait intervenir la puissance publique.
Je ne pense pas que ce soit le cas, mais déjà, alors on ne va pas rentrer dans des discussions de définition
sur ce qu'est le libéralisme.
Mais pour moi, déjà, c'est croire fondamentalement en l'efficacité des actions décentralisées, c'est-à-dire des actions qui sont menées par un ensemble d'acteurs et ces actions qui sont médiatisées par un système de prix. Et sauf que ce système de prix, eh bien, on peut le tordre en fonction de tout un ensemble d'enjeux de politique économique. Et en fait, c'est parce qu'il y a une multiplication des objectifs de politique publique que l'on donne. Ceux qui sont montés récemment, ce sont les enjeux de souveraineté. Quand on a vu les problèmes d'approvisionnement, donc on s'est posé la question de la souveraineté d'approvisionnement, sur les approvisionnements. Il y a les enjeux de défense, désormais, qui sont remontés très fortement. Donc c'est parce qu'il y a une multiplication des dispositifs de politique publique qu'il va y avoir un impact sur le système de prix pour que le corps économique réagisse.
Mais est-ce qu'on est de différent dans une période où qu'on peut résumer en trois mots, plus d'État, moins de marché ? Est-ce qu'on est dans cette période-là où on va revenir là aussi, comme avant ?
Non, parce qu'il y a plus de prérogatives de l'État, il y a plus de volonté de politique publique, mais les entreprises sont un instrument du déploiement de la politique publique. Donc c'est une articulation, et pas que les entreprises, c'est l'ensemble du corps économique qui participe à cela, c'est une articulation entre des politiques publiques et des moyens d'action. Les moyens d'action ne sont pas du domaine de l'État, il va en déléguer une partie à l'exercice des entreprises pour pouvoir atteindre des objectifs.
Ça vous réjouirait plutôt, l'un de l'autre, qu'on voit l'État intervenir. Quand l'État dit, écoutez, messieurs et mesdames, les automobilistes ou les constructeurs automobiles, vous devez supprimer les voitures thermiques en 2035 et vous ne choisissez pas entre des moteurs thermiques qui économiseraient davantage de carburant ou vous devez, sur les vols aériens, faire ceci, cela. Vous vous réjouissez, l'État est très présent.
Oui, alors je me suis posé la même question il y a à peu près 2-3 ans quand j'ai commencé à écrire le livre dont vous parliez, L'État droit dans le mur, et en fait... ce que j'ai fait pour y répondre, c'est que je suis allée chercher des données sur 70 ans. Parce que effectivement, depuis 2020, on a l'impression que l'État revient en force avec une intervention que vous venez de décrire. Et finalement, si vous regardez les données à la fois budgétaires, c'est-à-dire combien il y a de dépenses publiques, combien il y a d'aides aux entreprises, et les données monétaires, c'est-à-dire comment la Banque de France intervient dans l'économie, finance l'économie, en fait, un constat important, c'est que l'État est plus présent aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. en pourcentage du PIB, donc en pourcentage de l'activité économique, l'État intervient aujourd'hui bien davantage, mais ça n'a pas commencé en 2020. En fait, c'est vraiment une montée progressive à partir des années 2000.
Et donc, ça quand traduit... certains disent nous vivons dans un pays néolibéral, ça n'a aucun sens.
Alors justement, en fait, si on veut revenir à la définition du nouveau libéralisme, du néolibéralisme, c'est dans les années 30, justement, ce constat que le libéralisme pur, l'allocation des ressources par le marché, ne fonctionnait pas. Pouvait même amener des phénomènes violents, du type montée de l'autoritarisme. Et du coup, les nouveaux libéraux se disent « mais en fait, on a besoin de l'État ». On a besoin d'un État extrêmement présent, mais qui va se mettre... On a besoin d'un État qui se met au service du marché, parce que fondamentalement, on pense que le marché a plus raison que l'État. C'est très impressionnant, parce que c'est exactement ce qu'on constate dans les données. Ça s'est vraiment accéléré dans les années 2000 en France, même si on commence à voir ça dans les années 90. C'est par exemple l'exonération des charges sociales mise en place par le gouvernement Balladur et qui va monter en puissance au cours des 25 dernières années. Vous avez plein d'éléments pour substantiver le fait que l'État est très présent dans l'économie, mais depuis longtemps.
On va évidemment parler tout de suite de l'inflation, et pour de l'inflation, mais très concrète, et on va d'abord écouter des paroles de clients dans des grandes surfaces, et je vais vous faire réagir.
On va préférer acheter au kilo, on vérifie, et le moindre centime, on prend, puis on essaye de mettre de côté, et puis on voit. Les paquets de pâtes, je me rappelle, on les avait à 43 centimes. Là, vous voyez,
76.
Mine de rien, la lessive, quand on a des promos, par exemple, 2 bidons pour 15 euros, ça fait toujours ça qu'on a à la maison, et on sait qu'on a 15 euros pour autre chose.
Il y a des produits qu'on n'achète plus, des danettes ou des saucisses ou des trucs comme ça. Regardez le prix que ça coûte. T'auras pas regardé, parce que sinon on aura des regrets.
Alors, quand on entend les clients dans les supermarchés, on voit que les Français ont souffert de l'inflation, sans aucun doute. Qui est responsable de cette inflation? Première question que je vous pose à tous les deux. Et quand est-ce que ça va finir? Voilà, on est au cœur de l'été, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs et auditrices?
Alors, l'inflation, en fait, elle vient justement de la perturbation que l'on a créée dans l'économie. Quand on a arrêté l'économie, d'un seul coup, l'offre n'était plus au rendez-vous. Mais en revanche, on a préservé la capacité à dépenser. Pourquoi? Parce que les revenus ont été maintenus. Les entreprises ont également eu de la liquidité importante, donc elles ont pu maintenir leur niveau de dépenses. Et ce qui fait que face à une offre générale qui se trouvait contrainte, la demande, elle, était au rendez-vous. Et donc, quand l'économie s'est réouverte, eh bien, il y a eu un déséquilibre important qui est intervenu. Et là, ça a créé donc ce déséquilibre a été le précipité qui a amené de l'inflation. Ajouté à cela, des perturbations qui étaient que début 2021, on ne savait pas trop encore si l'économie allait vraiment
redémarrer. Ce que vous nous dites, c'est que l'inflation, pour vous, elle est temporaire. C'est un phénomène conjoncturel.
Elle tient à ce déséquilibre, mais ça, c'est la première saison de l'inflation, si vous voulez. Cette première saison de l'inflation, c'est ce déséquilibre très important que l'on a entre l'offre et la demande. Mmh. Et c'est accentué par l'accélération consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des perturbations sur les marchés de matières premières. Et là, on a une inflation qui est de nature importée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite la deuxième saison de l'inflation. La deuxième saison, c'est celle où les agents économiques vont essayer de se répartir la perte qui est consubstantielle de l'inflation. Parce que cette inflation étant de nature importée, c'est une perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de l'économie, perte qu'il va falloir se répartir entre salariés, État, entreprise. Et c'est là que l'on passe dans la deuxième saison où chacun essaye de limiter sa perte en essayant d'obtenir plus d'augmentation de salaire ou en essayant, dans le cas des entreprises, d'augmenter
les
prix
pour répercuter les coûts. Soyons très concrets, les salaires ont-ils suivi?
Alors, les salaires n'ont pas suivi en 2022, ils suivent en 2023. Ce qui a suivi en 2022, c'est précisément le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a vu l'inflation comme étant de nature temporaire. Et la réponse qui a été apportée par les entreprises a été non pas de distribuer du salaire en 2022, mais plutôt de jouer sur les dispositifs de prime, les outils de la flexibilité. En revanche, en 2023, il y a une perception de ce que l'inflation est beaucoup plus forte et beaucoup plus installée. Et à ce moment-là, ce sont les salaires qui embrayent et on a une augmentation de salaire qui devient supérieure à celle de l'inflation.
Qui a été de l'ordre de...
De l'ordre de 5%.
De 5%.
Alors que l'inflation est effectivement dans ces eaux-là.
Et donc, pour revenir à ma question initiale, à l'automne, à la rentrée. C'est fini, c'est pas fini, on revient à 3, on revient à 2.
Alors, ce sera fini sur l'alimentaire, beaucoup moins de hausse désormais sur les prix des produits alimentaires. Ça veut pas dire que les prix vont baisser, hein. Attention. Quand j'entends le son que vous avez passé à l'instant, l'augmentation des prix des pâtes, on ne voit pas le prix des pâtes diminuer. En revanche, on ne voit plus de nouvelles marches d'escalier franchies vers le haut pour ce qui concerne les prix. En revanche, comme justement l'inflation elle a changé de nature, elle se diffuse dans l'ensemble du système économique et va concerner désormais des activités comme les services, donc les assurances que vous
mais
achetez.
Mais on revient à un rythme de 2-3%?
On ne reviendra pas sur le rythme de 2%, on va plutôt redescendre sur du 3%, me semble-t-il.
De manière structurelle. Un ordre de l'autre, est-ce que la politique économique qui a été mise en place par les pouvoirs publics en France, par le gouvernement, a été la bonne?
En fait, vous avez une inflation environ de 5%, un peu plus de 5% en glissement annuel depuis un an, donc. En revanche, dans l'alimentation, vous êtes toujours à 13%. Et donc, vous avez une perception chez les différents citoyens qui est complètement différente. En fait, en fonction du revenu que vous avez, l'alimentation pesant plus ou moins dans votre revenu, dans vos achats, plus vous êtes pauvre, plus cette inflation dans l'alimentation, elle est très... vous en souffrez, en fait. Donc, 13% d'augmentation des prix. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième élément, c'est quoi le diagnostic? Pourquoi est-ce qu'on a cette inflation-là? Et alors, je partage votre diagnostic. Jusqu'à... Vous avez parlé de répartition, et je crois que c'est vraiment important. Denis Ferrand a parlé de répartition, et c'est important. On en est là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on répartit les coûts de l'inflation? Et là, je crois qu'il faut mettre en avant vraiment un résultat assez récent, mais où il y a une grande cohérence, encore une fois, chez les économistes, c'est le rôle des marges. En fait, dans ce que vous dites, il y a effectivement... Est-ce que c'est les salaires ou est-ce que c'est les marges qui ont entraîné la dynamique de l'inflation récemment?
Vous dites les prix font les profits.
En fait, les prix font les profits et les profits font les prix surtout. Quand les prix augmentent, les entreprises, pour ne pas perdre de l'argent, elles vont répercuter l'augmentation du prix dans leurs marges et les salariés vont demander de rattraper l'inflation. Et du coup, c'est vraiment exactement cette répartition. On vit là une période absolument exceptionnelle où normalement, on s'attend à ce que ça soit les salaires qui entraînent l'inflation. Et vous avez... Pourtant, dans certains secteurs, en fait, c'est du côté des profits que l'inflation et la dynamique de l'inflation a été entraînée.
Les entreprises ont tiré le bouchon un peu loin.
Pas toutes, surtout.
Tiré la corde.
Alors surtout, pas toutes. Il y a une très belle étude du CEPI de Harkier et Thiers qui montre que, en fait, ça dépend du niveau de concurrence dans votre secteur. Mais c'est très facile à comprendre, en fait. Vous ne pouvez pas augmenter vos marges ad vitam aeternam si vous avez vraiment des concurrents. Mais si vous avez assez peu de concurrents, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, et ça, c'est quand même très problématique, alors vous répercutez. Non seulement vous répercutez entièrement les prix l'augmentation par exemple du coût de l'énergie dans les prix,
les industriels de boissons gazeuses bien connues sont moins en concurrence que d'autres.
Oui, mais surtout, en fait, ce qu'ils montrent, c'est que dans ce secteur-là, le passage, il a été de 110%. C'est-à-dire que non seulement ils ont tout transmis dans les prix, mais ils ont augmenté un peu plus les prix que ce qu'ils avaient subi.
Les entreprises ont poussé le bouchon ou pas?
Selon que vous êtes effectivement un fabricant de boissons gazeuses américaines dans une bouteille rouge, plutôt, vous avez un pouvoir de marché qui est beaucoup plus important. Un distributeur ne peut pas avoir de produits de votre marque alors qu'il peut peut-être se passer d'un fabricant de pâtes de seconde zone. Et donc le fabricant a beaucoup moins de pouvoir.
Ce que vous dites l'un et l'autre, et vous le dites avec des mots différents, mais au fond, c'est assez proche, c'est une période qui est très darwinienne. C'est-à-dire qui permet... Les entreprises qui peuvent passer les prix, qui peuvent passer leurs coûts dans les prix, finalement s'en tirent beaucoup mieux que les
mais
autres.
Je crois que vraiment le sujet, c'est passer les coûts dans le prix, c'est acceptable. Passer au-delà des coûts, ça n'est pas acceptable, puisque vous avez un effet d'entraînement sur les prix, et donc vous êtes responsable de l'inflation.
Avant la pause musicale, encore un mot et plus qu'un mot, quelques phrases sur la situation du chômage. Je vais vous faire écouter ce que disait Emmanuel Macron, c'était il y a quelques semaines, c'était pas très loin du port de Marseille.
Là franchement, moi je vous promets, je fais le tour du vieux port ce soir avec vous.
Ouais.
Je vous trouve, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi.
Alors évidemment, c'est une phrase qui était en écho, qui résonne en écho avec celle qu'il avait prononcée au début de son premier mandat. Il suffit de traverser la rue pour trouver des emplois. Quelle est votre prévision, votre anticipation sur l'évolution du chômage? Est-ce qu'il peut descendre, la France peut descendre au plein emploi ou pas, Anne-Laure Delatte?
Alors, aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est historiquement bas. effectivement, qui est sinon proche du plein emploi. En tout cas, il est autour de 7%, il me semble.
Autour de 7%, ce qui, pour la France, est bas, mais par rapport aux autres pays, est assez haut.
Oui, mais disons que, voilà, sur une perspective historique, c'est plutôt exceptionnel. Après, la question qu'on se pose, moi, que je me pose, en tout cas, en tant que macroéconomiste, c'est, mais alors, si le chômage a tant baissé que ça, pourquoi les salaires réels continuent à baisser ? En fait, les salaires réels, selon l'INSEE, en 2023, vont baisser d'environ... alors, il me semble, au premier trimestre, c'est 2%, et il y a une légère baisse en 2023. Qu'est-ce que c'est, les salaires réels ? C'est vraiment votre salaire une fois que vous avez retiré l'inflation. Donc, c'est vraiment une perte de pouvoir d'achat. En général, quand il y a une situation de plein emploi, les salariés sont plutôt en pouvoir de négociation pour demander des salaires plus élevés. Or, là, ça renvoie à la discussion qu'on vient d'avoir sur l'inflation. C'est que, OK, il y a des marges dans certains secteurs qui ont augmenté, mais en moyenne, si on regarde les salaires réels, ils ont baissé. Et donc, ce plein emploi, on se dit, on a un petit goût amer parce qu'on se dit, comme aux États-Unis, quand on a du plein emploi, là, les salaires devraient augmenter. Et c'est pas ce qui se passe en France.
Donc c'est un plein emploi possible, mais pas dans des bonnes conditions salariales.
Oui, en fait, il y a eu un boom de l'apprentissage. Un tiers des emplois créés depuis 2019. Et ça coûte assez cher, ça coûte 20 milliards par an, c'est des finances publiques.
C'est de l'argent perdu ?
En tout cas, c'est de l'emploi créé qui n'est pas de l'emploi qualitatif avec de bonnes conditions
d'accord,
de travail. C'est pas forcément souhaitable.
Vous nous dites au fond, le plein emploi possiblement, mais c'est pas un bon plein emploi. Et donc la situation de l'emploi, pour vous, comment va-t-elle évoluer ?
Alors, l'évolution de l'emploi, justement, je pense que le mot de plein emploi doit être qualifié. Là encore, je ne vais pas entrer dans des définitions, mais le plein emploi, c'est pas seulement 5% de taux de chômage, c'est surtout une augmentation du taux d'emploi. On est très en retard en termes de taux d'emploi en France, relativement aux pays européens qui ont le niveau le plus élevé.
Voilà, c'est la fin de cette première partie. Nous nous retrouvons après une pause musicale, comme on dit. Si vous êtes au volant, selon la formule consacrée, soyez prudent. Friend, when you needed a friend. C'était le groupe This is the Kit avec le titre More Change.
France Inter. Dominique Seux. L'écho de l'été.
Retrouvons nos deux économistes pour évoquer les grands sujets de réflexion économique de l'année. Denis Ferrand pour Execode et la chercheuse Anne Laure Delatte. Alors, j'ai une question maintenant qui concerne les finances publiques. Et on va venir évidemment sur une actualité qui nous a intéressé cette année, qui est la France a franchi la barre des 3 000 milliards de dettes publiques. Est-ce que c'est inquiétant? Comment rétablir les comptes? On va d'abord écouter un autre économiste. Un autre économiste, c'est Thomas Piketty, qui, à l'occasion d'un débat que j'ai eu avec lui chaque vendredi matin pendant 3 ans, nous donne sa solution et elle a trait, évidemment, aux inégalités et aux impôts.
Moi, je pense qu'on devrait le faire du point de vue de la justice et on devrait décider que les acteurs économiques les plus puissants, multinationales, milliardaires, enfin tous ceux qui ont le plus de moyens, parce qu'on est immensément riches collectivement.
Il faudrait qu'on fasse quoi là sur ce point ?
Eh bien, il faudrait qu'une partie des recettes fiscales prélevées au niveau mondial et notamment au niveau des pays riches occidentaux sur les multinationales, sur les contribuables les plus aisés, sur les milliardaires, une partie de ces recettes soit redistribuée.
Voilà, alors on a entendu aussi la voix de l'ami Nicolas Demorand. Thomas Piketty dit redistribuer. Il parle spécifiquement là de redistribution aux pays du Sud pour le climat, mais en fait, c'est une proposition chez lui pour corriger les inégalités, y compris en France. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, à la fois pour redresser les finances publiques, si c'est nécessaire, et financer des besoins sociaux nouveaux? Est-ce que l'augmentation d'impôts sur les plus aisés est une voie de passage obligée?
Alors, sur les finances publiques, est-ce qu'on a un problème? Est-ce que ces 3 milliards de dettes sont problématiques?
3 000 milliards.
Oui, j'ai dit, pardon, 3 000 milliards. Premièrement, évidemment qu'il faut avoir une gestion budgétaire sérieuse et rigoureuse. Mais si vous regardez des indicateurs objectifs du type est-ce que les investisseurs nous demandent un coût supplémentaire quand on leur emprunte de l'argent, ça n'est pas le cas. Les taux d'intérêt qui sont demandés par les créanciers français à l'État français n'ont pas augmenté. Il faut avoir une gestion budgétaire rigoureuse, mais il n'y a pas péril en la demeure. Après, en revanche,
alors,
a besoin de récupérer des ressources.
On va y venir. Denis Ferrand, péril en la demeure ou pas péril en la demeure?
En fait, le chiffre de 3 000 milliards de dettes, on le regarde toujours de manière assez désincarnée et on oublie de regarder ce qu'il y a en face. C'est-à-dire qu'on peut accumuler de la dette parce que on a investi, on a fait des choix forts en termes de préparation de l'avenir. Ou alors, on a pu les accumuler parce que, en fait, on a dépensé de manière, non pas à fond perdu, mais pour des éléments qui ne fabriquent pas de l'avenir, pour de la dépense de fonctionnement, même si cette classification est un petit peu baroque, investissement versus dépense de fonctionnement.
Mais je comprends, vous dites que c'est ça, la seconde hypothèse, qui est la bonne.
Oui, je pense que c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut regarder. Or, qu'est-ce que l'on voit face à l'augmentation que l'on a eu du poids de la dette? C'est pas tant le niveau qui m'inquiète que son évolution. Face à l'augmentation du poids de la dette, on n'a pas eu une augmentation à due proportion des actifs que l'on a dans l'ensemble de l'économie. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas fabriqué les conditions même du remboursement de cette dette. Et donc, on risque après tout le temps de courir derrière le fait que les taux d'intérêt vont monter avec une capacité à pouvoir faire face à cette échéance de dette de plus en plus faible.
Est-ce que les Français sont insatisfaits de la qualité des services publics parce qu'on ne dépense pas suffisamment ou que c'est mal organisé? Et dans le premier cas, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Là, je reviens à ma question.
L'idée essentielle qui est partagée par énormément d'économistes et portée notamment par Thomas Piketty, c'est effectivement d'aller tirer sur des impôts, en fait, de créer de nouveaux impôts pour aller récupérer des ressources là où elles sont. Premièrement, c'est essayer de lutter contre l'évitement fiscal des multinationales. Et là, on a pas mal de chiffres là-dessus, notamment Total, qui paye presque pas d'impôts en France, alors que Total est une entreprise qui fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que Total a la possibilité, en fait, bien de déclarer des profits dans des filiales à l'étranger qui taxent beaucoup moins. Le profit qui est déclaré dans une filiale en Europe soit taxé au minimum à 15%, 20%, 25%,
donc vous
là,
dites,
vous choisissez.
Oui, il y a de l'argent à aller chercher.
Ah bah, il y en a beaucoup, même, puisque vous avez les multinationales qui ne payent pas leur impôt en France, et vous avez des hauts revenus et surtout des hauts patrimoines, c'est-à-dire des ménages qui ont accumulé énormément de patrimoine et qui paye un taux effectif d'impôt, mais non seulement très bas, mais qui est même choquant au niveau démocratique, parce qu'en fait, ils payent moins d'impôts que le Français moyen.
De différents.
Ce qui est important, c'est quand on réfléchit en termes d'impôts, certes, on voit les prélèvements, mais pourquoi faire? Quelle est la destination? Et est-ce que dans ce cas, les ressources qui auront été prélevées par l'intermédiaire, bien, par exemple d'un prélèvement sur les riches, appelons-le comme ça, est-ce que ce faisant, son déploiement, son utilisation sera plus efficace si elle est réalisée par l'État ou si au contraire, il y aurait une efficacité plus importante si ces fonds étaient restés dans les mains de ceux qui peuvent les dépenser. Il faut dans ce cas plutôt donner les incitations qui va amener les entreprises ou les particuliers qui peuvent être concernés à mettre en place les décisions qui permettent d'atteindre l'objectif de politique publique que vous vous assignez, sans que ce soit l'État qui intervienne lui-même pour faire ce que vous avez
prévu. Donc pas de nouveaux impôts.
Et donc pas de nouveaux impôts, mais en revanche vous mettez, ou alors des impôts type taxe carbone qui permettent de créer les incitations.
Mobilité.
Alors, en fait, c'est une politique qu'on a mis en place depuis 2012 avec le pacte de stabilité, le CICE. Enfin, on a fait toute une série de mesures.
Le crédit d'impôt.
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Crédit d'impôt recherche. On a essayé justement de rendre de l'argent aux entreprises sur le principe qu'il était mieux utilisé quand il est utilisé par les entreprises plutôt que par l'État. Donc en fait, au lieu de les taxer davantage, on a réduit la taxation des entreprises. Les prélèvements obligatoires sur les entreprises ont baissé en France à un niveau et une vitesse beaucoup plus importante que dans le reste de l'Europe. Et qu'est-ce que vous avez ? En fait, on n'a pas du tout amélioré le solde commercial français. On n'a pas eu un effet sur l'emploi. Alors, on n'a pas eu un effet sur l'investissement.
Il y a un effet sur l'emploi, non ? Donc,
pour l'instant, les études tendent à montrer que toutes ces mesures n'ont pas eu l'effet escompté. Et vraiment, sur le solde commercial...
Alors, l'économie a créé plus d'un million d'emplois, mais c'est vrai que les autres pays, on en fait beaucoup aussi. Alors, un sujet que je voudrais aborder avec vous, le début de l'été a été marqué par des émeutes dans un certain nombre de quartiers, les quartiers prioritaires de la ville. Une question importante est de savoir s'il y a une explication majoritairement ou pas socio-économique aux difficultés de ces quartiers. Que peut-on en dire ? Et pour introduire cette discussion entre vous, je vous propose d'écouter le maire de Trappes.
On concentre la pauvreté avec tout ce qu'elle charrie, c'est-à-dire plus de familles monoparentales, deux fois plus de chômage, trois fois plus de pauvreté, deux fois moins de diplômés. On la concentre volontairement, nous, la République, dans notre ensemble. C'est pour ça que j'interroge la responsabilité de tous. Mais vous savez, il y a des logements, on parlait tout à l'heure de l'ANRU et des milliards sur les rénovations de façades. J'ai des bâtiments qui ont été rénovés. Cet hiver, comme tous les hivers, pas de chauffage, pas d'eau chaude pendant des semaines. Vous accepteriez-vous de vivre sans chauffage et sans eau chaude pendant des semaines ? Voilà les conditions dans lesquelles on fait vivre des habitants du quartier de Jean Massé à Trappes, par exemple. Je vous prédis des émeutes dans 10 ans maximum, si on change pas les causes structurelles.
Alors, l'ANRU, c'est l'agence de rénovation urbaine. L'un et l'autre, est-ce que c'est l'explication socio-économique qu'il faut privilégier ?
Alors, il me semble qu'il faut revenir à ce qui a déclenché les émeutes. Hein. C'est la mort d'un gamin de 17 ans par un policier. Et donc, il me semble que c'est important aussi d'essayer de documenter s'il y a vraiment de la violence policière systémique qui serait une des raisons, enfin la raison même principale des émeutes qu'on a observées. La France est le pays d'Europe où les opérations de police ont causé le plus de décès par habitant en 2022. Entre 2011 et 2020, la police et la gendarmerie française tuent 50% de plus que leurs homologues allemands et presque 400% de plus qu'au Royaume-Uni. Il y a un deuxième élément.
Donc, pour nourrir le débat, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est plutôt une explication sur le comportement de la police que vous mettez en avant.
Oui, et puis il y a juste un élément, c'est qu'il y a un racisme systémique dans la police. Vous avez 80% des policiers qui votent RN. Vous avez, je crois, 20 fois plus de chances, si vous êtes une personne noire, d'être arrêté.
Donc vous ne mettez pas en avant, ou en tout cas en haut de la pile, les explications de type revenu ou chômage.
Non mais elles sont importantes, mais là il faut se souvenir de pourquoi il y a eu ces émeutes en banlieue.
Il y a une note qui est très intéressante, qui a été diffusée par Terra Nova il y a quelques jours.
C'est un think tank.
Donc un think tank, une note qui est justement qui essaye de regarder socio-économiquement ce qui se passe dans ces quartiers. Et effectivement, ils aboutissent sur le même diagnostic, sur le facteur causal premier. Le seul élément discriminant qu'ils voient de manière forte, c'est le comportement, notamment de contrôle au faciès, comportement selon que vous êtes blanc ou pas blanc, eh bien, vous aurez plus ou moins de chances d'être contrôlé. Je vous laisse deviner à quel cas je fais référence. En revanche, sur les aspects socio-économiques, ils montrent des points qui sont quand même assez encourageants, de manière assez surprenante. C'est tout d'abord, il y a plus de mobilité dans ces quartiers, c'est-à-dire il y a plus de gens qui peuvent en sortir. Il y a
plus de mobilité que quoi ?
De mobilité, c'est-à-dire des gens de mobilité géographique, des gens qui peuvent sortir du quartier, qui peuvent que dans une population urbaine classique, c'est-à-dire vous regardez la population urbaine totale et vous regardez la population du quartier prioritaire de la ville et vous vous rendez compte que les gens qui sortent de ces quartiers sont plus nombreux. En revanche, ceux qui rentrent sont plus pauvres que ceux qui sortent. Mmh. Donc mais vous avez quand même une mobilité, vous n'êtes pas assigné à résidence d'une certaine façon. Il montre aussi ce papier que vous avez une réduction du taux de chômage qui a été plus forte dans les quartiers politiques de la ville que dans les zones urbaines. En revanche, il y a des points qui sont durs, c'est que vous avez beaucoup moins de prestations sociales par habitant que dans l'ensemble de la population. Cela tient aussi parce que c'est une population qui est plutôt plus jeune, donc moins de prestations de retraite. Et également, vous avez des dépenses, notamment en fonction publique hospitalière, moins importantes en Seine-Saint-Denis, par exemple, qu'elles ne le sont dans un département moyen. Donc vous avez quelques facteurs socio-économiques, mais vous avez aussi des motifs d'espoir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assigné complètement en résidence et il y a eu des améliorations sur le chômage. Et je serais plutôt enclin à privilégier, effectivement, comme le montre cette note de Terra Nova, à privilégier les dimensions sécuritaires, à savoir ce ressenti qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'action policière.
D'accord. Est-ce que vous êtes en appui, en accord sur cette priorité à donner ? C'est ce que vous évoquiez vous-même.
Oui, oui. Je rajouterais que, en plus des dépenses publiques à l'hôpital, il y a aussi un chiffre sur les dépenses publiques d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un moindre investissement d'éducation en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, par exemple. Et en fait, vous avez un système de citoyenneté qui n'ont pas le même niveau. Vous avez un sentiment, je pense, qui est complètement, qu'on peut comprendre, qui est qu'on n'est pas exactement les mêmes citoyens quand on est en banlieue ou quand on est à Paris ou dans une grande ville.
Pour finir, je voudrais vous poser une question et ça appellera une réponse vraiment extrêmement courte de l'un et l'autre. Motif d'espoir ou pas, on a beaucoup entendu depuis quelques années qu'il fallait que la France se réindustrialise. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout, on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Quelle est votre analyse l'un et l'autre ?
Oui, on est en train de se réindustrialiser, mais il faut le faire de manière déterminée, et c'est très important. C'est très important parce que l'industrie, c'est un vecteur.
Mais on voit quelque chose actuellement ou pas ?
Oui, déjà parce qu'il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Donc c'est un indicateur microéconomique qui a quand même de la portée. Ça change surtout par rapport à ce qu'on a connu pendant 20 ans, où on a eu vraiment une contraction de l'appareil productif et industriel.
Alors de là,
si on doit réindustrialiser, il faut le faire pour des raisons d'aménagement du territoire, effectivement, c'est-à-dire recréer de l'emploi là où il n'y en a plus, dans les régions où il n'y en a plus. Mais il faut surtout le faire en ayant les nouveaux enjeux en tête, qui sont des enjeux géopolitiques et des enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réindustrialiser à la papa, comme on l'aurait fait dans l'ancien monde, avec de la compétitivité, de la concurrence internationale à tout va, quitte à faire n'importe quoi et à faire du sale. D'ailleurs, c'est vraiment pas le choix que fait l'Europe, hein. C'est très bien, on fait de la destruction, création, et c'est très bien, mais ça va coûter cher. Il faut au moins avoir en tête on a un enjeu climatique qui est essentiel, et il faut surtout pas faire de la réindustrialisation pour la réindustrialisation.
Voilà, on retient qu'il ne faut pas faire de la réindustrialisation à la papa. Merci, c'est la fin de cet écho de l'été. Merci à vous deux, Denis Ferrand, Anne-Laure Delatte. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Guillaume Roux, à la recherche de son Laura Dumez, avec Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. À la semaine prochaine, vous pouvez retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée sur le site de France Inter, rubrique L'écho de l'été. Bonsoir.